La revue de presse internationale, bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Claude, ce matin, vous vous êtes demandé ce qu'on disait de la France ces jours-ci dans la presse étrangère.
Alors j'ai bien hésité ce matin, cher Guillaume, avant d'aborder le sujet, parce que il y a quand même des choses qui ne se font pas, comme lancer incidemment la conversation sur les gilets jaunes entre la dinde et la bûche à la table de Noël, ou lorsqu'on est américain, se lâcher sur Donald Trump lors d'un barbecue avec des amis républicains. Et du coup, ce matin, alors qu'on se réveille, a-t-on vraiment envie de savoir ce que le monde entier pense de notre Decathlon Gate? Alors vous savez, hier, la marque de sport a finalement renoncé à commercialiser son hijab de running, c'est son nom.
Hijab de sport,
c'est ça. Eh bien, ce sujet, il a été largement repris dans la presse internationale, comme c'est le cas finalement à chaque fois que la France s'enflamme sur un sujet qui soit lié à la laïcité.
Il faut dire, Claude, que c'est un concept quand même tout à fait singulier, propre à notre pays.
Oui, tout à fait, à tel point que ce mot, en fait, il n'est pas directement traduisible dans la presse sans qu'il soit fait de contresens. Alors, chacun, du coup, y va de sa définition. Le Guardian, ce matin, parle, par exemple, d'un sécularisme basé sur la stricte séparation de l'Église et de l'État. Et je ne rentre pas dans les détails, Guillaume, des explications de textes qu'on a entendues dans les débats télé au Proche-Orient, par exemple, où le concept de laïcité, très souvent, eh bien, il est confondu avec l'athéisme.
Et le journal qui étrille la France ce matin, c'est le Washington Post.
Un hijab pour les joggeuses musulmanes en France, quel scandale! C'est sous ce titre ironique, en effet, que le correspondant à Paris du Poste porte un regard un peu consterné sur cette polémique. Il parle de débat national acerbe et il rappelle qu'aux États-Unis, le regard sur ce sujet, eh bien, il est totalement différent puisque le voile y est vu comme un moyen, eh bien, de faciliter l'accès au sport à des femmes et donc de les inclure davantage. Alors, le journaliste rappelle ainsi que dimanche dernier, encore aux États-Unis, on a pu voir lors des Academy Awards une publicité pour un autre équipementier, une pub qui montre en fait des sportives qualifiées de folles pour avoir brisé des barrières en changeant de discipline sportive, par exemple, en revenant en compétition après avoir eu un bébé ou en devenant la première athlète américaine à participer aux JO en portant en voile, comme l'a fait l'escrimeuse Ijtihab Mohamed. Alors, l'ancien correspondant en France de The Independent, John Litchfield, est encore plus caustique. La France, ironise-t-il, est un pays émotif qui se targue de vouer un culte à la logique. Or, dans le débat français sur l'islam, dit-il encore, eh bien, les émotions et les préjugés défient toute raison. Puisqu'il n'est pas interdit de marcher dans la rue avec un foulard, pourquoi cela devrait-il poser un problème de courir avec, demande-t-il. Alors, cher Guillaume, on ne va pas re-rentrer ce matin dans cette polémique, mais non. Il est quand même toujours très intéressant, eh bien, de constater le poids de nos différences culturelles, sociales et historiques sur des sujets communs, et de se rappeler que le regard extérieur, justement, de la presse internationale peut nous amener à nous poser des questions.
Et vous avez noté, Claude, ce matin, dans la presse, d'autres regards croisés sur des sujets d'actualité communs qui résonnent en France comme ailleurs.
Oui, alors qu'on procède en Syrie à l'évacuation des derniers djihadistes, alors que le débat, on le sait, il existe en France sur leur sort judiciaire, eh bien, The Economist s'interroge sur ces combattants étrangers dont les gouvernements occidentaux ne savent que faire. Le journal s'indigne de ces gens qui ont hier brûlé leur passeport et qui se comportent aujourd'hui, je cite, comme des touristes en détresse, victimes d'un voyage mal organisé. Alors jusqu'ici, les pays étrangers étaient plutôt, contents de laisser leurs djihadistes sur place. Mais depuis l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie, eh bien, il devient quand même urgent de trouver une solution. Donald Trump a demandé aux pays concernés de rapatrier leurs citoyens. Alors, comment faire, demande le journal. Il y a, entre autres, la déchéance de nationalité qui permet, par exemple, de renvoyer le problème sur d'autres.
Et c'est ce que fait l'Australie, par exemple.
C'est ce que fait l'Australie, c'est aussi ce que fait l'Angleterre. On a le cas là-bas de cette jeune femme qui s'appelle Shamima Begum. Son sort enflamme le Royaume-Uni ces jours-ci. Elle avait rejoint l'État islamique quand elle était adolescente. Elle vient d'être déchue de sa nationalité. Et son bébé dans les bras, éploré, elle vient de demander son rapatriement. Désolée pour toi, ma petite djihadiste sans cœur, mais comme on fait son lit, on se couche, lui répond Alison Pearson dans The Telegraph. NBC News rappelle que la question est particulièrement difficile pour les pays européens parce que en Syrie et en Irak, les prisonniers peuvent encourir la peine de mort. Or, vous le savez, c'est une pratique à laquelle l'Union européenne est opposée. La Belgique a déjà dit qu'elle ne ferait pas d'efforts pour faciliter le retour de ses ressortissants. D'autres sont silencieux. Et puis en France, eh bien, qui est quand même le pays d'Europe avec le plus grand contingent de djihadistes, djihadistes, le débat est très difficile.
Et alors, comment faire pour trouver une solution européenne quand chaque pays a une position différente, Claude ?
Alors, on peut peut-être, Guillaume, lire The Telegraph avec ce reportage à Kamishli qui donne la parole aux autorités kurdes du nord-est de la Syrie. Elle suggère, elle, d'établir un tribunal international comme celui de Nuremberg. Ça, oui, mais à la condition que les gouvernements occidentaux construisent sur place des prisons et fournissent les moyens de surveiller les djihadistes. Or, mettre en place un tel tribunal, Guillaume, ce serait en fait terriblement compliqué aujourd'hui lorsque la Russie, qui est alliée de Bachar el-Assad, a un veto au Conseil de sécurité des Nations Unies et pourrait donc s'y opposer. Alors ce matin, on se demande une fois de plus comment faire, une fois de plus comment trouver des solutions quand il n'y a jamais de réponse facile et unique à apporter. Je vous laisse, Guillaume, je récupère les copies dans 4 heures.
Bah, essayez de passer avant 9 heures. Vous étiez Claude Guibal, c'est cela. Merci Claude.